EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Mes enfants ont vécu des choses. J'ai donné le meilleur que j'ai pu avec ce que je connaissais à l'époque pour les élever, pour les amener à une certaine compréhension. Mais eux avaient leurs responsabilités, mm-hmm. parce qu'on a tous un libre arbitre. Donc, leurs choix, les choix qu'ils ont faits, c'était leurs choix, c'était pas les miens. J'ai pas choisi d'avoir un fils meurtrier, j'ai pas choisi d'avoir une fille qui s'est enlevée la vie par overdose. Ça, c'était pas mes valeurs à moi.
Bonjour à toutes. Alors, je vous avais promis un autre témoignage, une femme très inspirante. Et aujourd'hui, on a une femme qu'on a déjà reçue à l'époque dans Paroles de femmes et qui aujourd'hui revient nous voir dans À table avec Annabelle. Elle est toujours aussi radieuse et aussi inspirante. Bonjour Monique.
Bonjour Annabelle.
Regardez comme elle est radieuse.
Bonjour Monique.
Ah, vraiment pétillante. On a eu Daria lundi qui était en plein jet lag et qui était hyper, hyper belle. Ouais. Et nous avons Monique qui est, on va pas dire votre âge, mais en tout cas qu'il ne fait vraiment pas son âge.
Rayonnante.
Ouais,
rayonnante.
Franchement, on voit que les années et même finalement les épreuves ne se lisent pas sur vous, parce que hyper dynamique.
Très belle.
Ouais,
très
dynamique. Très... On parlait des voyages à l'instant. Elle disait Aurélie, non, moi je me débrouille. Donc Monique, on est vraiment heureuse de vous avoir aujourd'hui autour de la table. Ouais. Et on parle de vie pendant cette semaine dans lesquelles il s'est passé des événements tragiques. Et puis, je pense que le mot est assez bien approprié en ce qui vous concerne. On va pouvoir revenir un petit peu sur votre histoire, ce qui s'est passé avec votre fils. Et aujourd'hui, il y a une saveur un petit peu plus spéciale parce que Stéphanie est là. Et Stéphanie et vous avez toute une histoire dans votre parcours de restauration avec le Seigneur. Et vous allez nous raconter comment le Seigneur vous a relevé et ce qu'il a fait dans votre vie. Mais je crois que Stéphanie a été pas mal...
Ah non, on est très proches, nous.
Faisons.
Dieu a uni nos chemins ensemble. Ouais. Et en fait, en plus, Dieu fait bien les choses parce que Monique a l'âge de ma mère. Exactement, elle est infirmière comme ma mère. Et moi, j'ai l'âge de sa fille qu'elle a perdue.
C'est vrai.
Donc, il y a vraiment un lien comme ça très fort. Et tout au long du ministère, moi, j'ai vu Monique dès le début, quand elle est arrivée après tous ces drames-là, quand elle s'est présentée à l'église. Et j'ai vu Dieu la restaurer complètement. Pour moi, c'est parmi les plus beaux miracles que Dieu m'a permis de voir sous mes yeux.
Ça fait déjà 22 ans.
Ça fait déjà 22 ans qu'on se connaît.
Connectés.
Oui, vraiment. Et on aura l'occasion d'en parler durant l'émission. Mais notre première rencontre a été... vraiment un choc, d'où j'ai failli abandonner le ministère.
Est-ce que t'as fait une bêtise?
J'avais l'impression d'avoir fait un faux pas, le pire de ma vie. C'est quand j'ai rencontré Monique, c'était la deuxième fois seulement que je partageais la parole. Et le soir, je me suis couchée et je voulais abandonner le ministère. Mais Dieu avait un plan pour cette rencontre divine.
On va y revenir, vous allez nous raconter
ça. Oui.
Donc pour se remettre un petit peu en contexte, Monique Lépine, c'est un nom de famille qui a été tristement connu, puis qui même en France, on a entendu parler de cet événement. En décembre 89, on a entendu parler de cette fusillade à Montréal où plusieurs jeunes filles ont été tuées par un jeune homme qui s'appelait donc Marc Lépine et qui est votre fils.
Exact.
Et de là, votre vie a basculé. Il y a eu tout un enchaînement. Donc, je vous laisse du coup raconter.
Disons que ce soir-là, je ne savais pas encore que c'était moi, mais j'avais écouté la nouvelle à la télévision, comme tous les Québécois. Et ce soir-là, c'était un mercredi. Mm-hmm. Pourquoi je le mentionne, c'est que moi, je me rendais toujours à une réunion de prière. J'étais déjà chrétienne depuis une dizaine d'années. Et je me rendais toujours à la réunion de prière. Et ce soir-là, tellement bouleversée par la nouvelle qu'on avait entendue, j'ai demandé est-ce que l'on prie pour la maman de ce jeune garçon. Comme quoi, le Seigneur sait ce qu'on va traverser, les coups durs qu'on traverse, mais il vient toujours nous préparer avant. Donc, j'avais besoin de la prière. Puis après, quand je témoigne, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient prié pour moi ce soir-là. Même sans savoir.
Sans savoir.
Ouais, c'est le lendemain soir que j'ai su que c'était mon fils, Marc Lépine. Mais Marc Lépine, c'était pas son nom d'origine. Hein?
Mm-hmm.
Parce que Marc Lépine, c'est un nom qu'il s'est donné à l'âge de 14 ans parce qu'il avait plus de contact avec son père. Il n'y en a jamais eu vraiment depuis l'âge de 6 ans. Et lui s'appelait Gamil Garbi à l'origine. Donc, lui a changé son nom, mais il a changé aussi sa personnalité. Mon fils, c'est plus le petit Gamil que Marc Lépine, parce qu'à ce moment-là, Marc ne voulait plus que je le touche comme, comme un enfant. Là, il avait ses réserves et puis tout ça. Donc, mais c'est malheureusement notre nom à nous qui a été mis dans les journaux et au grand détriment de ma propre famille. Ouais. Enfin, disons que c'est ça. Et puis... ça, c'était une des épreuves de ma vie qui était très grande, évidemment. Mais j'ai aussi perdu ma fille 7 ans plus tard par une overdose de cocaïne. Ma fille, vous savez, ne suivait pas le Seigneur comme moi je le suivais parce que Jésus est devenu mon ancrage. Dès le premier moment où j'ai appris que c'était mon fils, je me suis confiée seulement à Jésus. Je me disais qu'aucun être humain sur Terre ne pouvait comprendre la douleur que je ressentais. Et c'est vraiment à Jésus que je me suis confiée dans toutes mes émotions, surtout, parce que c'était émotionnel. Hein? Mes douleurs à moi étaient plus émotionnelles, mais elles étaient dangereuses parce qu'elles avaient des répercussions aussi sur ma santé physique. Mais enfin, disons que quand j'ai perdu ma fille, là je perdais, si vous voulez... c'était très difficile parce que là, mes enfants ont été mon moteur de vie. Parce que je me suis séparée alors qu'ils avaient seulement 3 ans et 5 ans. Et toute ma vie, je l'ai consacrée à mes enfants pour pouvoir les amener à vivre leur propre vie. Et voilà que du coup, 25 ans, mon fils fait ses gestes terribles, me laisse l'odieux des conséquences de ses gestes aussi, hein, parce qu'il y a la honte, la culpabilité qui embarque, la colère, la peur, toutes ces émotions-là sont fortes. Et moi, je dois continuer à travailler parce que je dois assurer quand même ma survie et celle de... Ma fille était quand même plus chez moi, mais quand même, je l'avais quand même dans mon entourage. Et puis ma fille qui, elle, a des problèmes de drogue, ne s'en sort pas. Ça a été un autre combat qui a duré quand même 7 ans. Et puis là, je perds, du coup, mes 2 enfants. C'est là où je me suis écroulée. Profondément écroulée, en grande dépression, n'ayant plus le goût de vivre. Mais le Seigneur avait d'autres plans pour
moi. Parce que vous dites, dès le premier jour, quand vous avez su que c'était votre fils, vous avez mis votre confiance en Dieu. Mais par contre, vous alliez à l'église, ou en tout cas, vous fréquentiez un groupe, mais vous ne le disiez pas forcément que c'était vous.
C'est-à-dire, dans la petite église où je me trouvais à l'époque, tout le monde me connaissait, évidemment. Mais même à mon travail, parce que j'étais quand même cadre infirmier, et puis ça faisait 35 ans que j'étais infirmière. Donc, toutes mes collègues, parce que je suis retournée travailler 3 mois seulement après les polytechniques. Et là, à ce moment-là, ben, tout le monde me connaissait, mais je n'ai jamais parlé ouvertement que c'était mon fils, même si je savais qu'il y en avait qui le savaient. J'ai jamais parlé de ma situation. Non, elle était privée. Elle a été privée pendant 17 ans.
Pendant 17 ans?
Oui, 17 ans, je n'ai jamais parlé de... Mais 13 ans après, c'est là où le Seigneur a fait une intervention dans ma vie. Mais c'est venu après un premier voyage en Israël. La première fois où j'ai vraiment eu une visitation, appelons ça visitation, mais c'était plus une conviction intérieure, ça s'est passé en Israël. J'allais prendre ma retraite pas longtemps après et je voulais vraiment marcher là où Jésus avait marché. Je suis allée en Israël et quand je suis arrivée au jardin de Gethsémani, c'est là où j'ai vraiment rencontré Jésus. Jésus souffrant pour nous, finalement. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a donné cette conviction, vraiment une conviction profonde, qu'un jour, je témoignerai de son nom. Mais ça ne s'est pas passé dans les médias. Ça, c'est en 99. Mm-hmm. Il s'est passé beaucoup de changements, par contre, à ce moment-là. J'étais dans une petite église et quand il y avait des journalistes qui venaient dans la petite église, c'est moi qui devais sortir parce qu'ils n'étaient pas équipés pour faire face aux journalistes et, et à tout ce qui s'ensuit. Et c'est là où le Seigneur m'a permis que j'aille demander à Pasteur Claude une entrevue pour voir si je venais dans la grande église, parce que c'était quand même la plus grande église à ce moment-là, est-ce que je pourrais être protégée? Parce que j'avais besoin d'aller à l'église. Alors, c'est là où ça a commencé, en 2000, j'ai fait ce transfert, mais j'étais incognito dans l'église.
Okay. Juste faire une parenthèse, parce que c'est un drame terrible, de perdre mais toute la pression médiatique et même familiale. Monique me racontait que dans ta propre famille, tu sais, c'était difficile d'associer le nom, que le fait que ce soit son fils qui était... Et elle a enterré son fils seul, tu vois. Le papa n'est pas venu. Toute la famille avait comme honte. Donc, imagine-toi la jeune fille quand, avec les problèmes de drogue, c'était la pression. Et à chaque mois de décembre, l'histoire revenait. Vous êtes, si vous êtes au Québec, vous savez. Donc, tu sais, c'est un drame, en plus d'être humainement, de perdre un enfant, tu as toute une pression sociale de jugement. Donc, c'est pour ça que la Grande Église devait protéger aussi de toutes les... parce qu'il y a beaucoup de jugements aussi.
Même plusieurs années après, c'est encore...
Ça a été un frais dans l'événement qui a marqué le Québec.
C'est ça.
Hein,
parle. Et du coup, c'est comme ça que vous êtes arrivée à Nouvelle-Vie, dans une grande église, mais là, les gens, du coup, ne savaient plus...
Non, les gens ne savaient pas, sauf le pasteur principal, peut-être.
Et Stéphanie non plus ne savait pas.
Non,
c'était confidentiel.
C'était vraiment... J'avais demandé la protection, parce que je voulais quand même aller à l'église, mais j'arrivais à l'église, je sortais aussi vite. Mais est arrivé à un moment donné, quand même, j'allais à la prière des femmes, mais je sortais, je voulais pas me faire connaître, tu vois. Mais un jour, moi, quand même, une de mes façons de m'en sortir, c'est que moi, j'aime l'étude, donc j'assistais à toutes les conférences qui pouvaient m'aider, tous les enseignements qui pouvaient m'aider. J'ai fait mon cours en relation d'aide avec l'ITF. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de connaître. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Mais un jour, il y avait cette conférence sur la gestion de la peur. Et c'est Stéphanie. Alors, moi, je vais là, parce que j'ai dit ça va être très bon pour moi, n'est-ce pas? Et c'est ce soir-là que le Seigneur avait décidé que je dirais qui je suis à Stéphanie.
Oui, bien, il te l'avait dit à toi, mais pas à moi, le Seigneur. Hein?
Parce que, racontez-nous comment ça s'est passé.
La façon que ça s'est passé, c'est qu'elle parlait de la peur. Et puis, à un moment donné, elle arrête sa conférence et elle dit, je vais vous raconter la journée où j'ai eu le plus peur dans ma vie. Elle dit, je travaillais comme biochimiste dans un laboratoire. Et voilà que les policiers viennent.
Est-ce que là, à ce moment-là, vous commencez à vous dire, je vois.
Écoute, ça a été instantané. Elle dit, là, les policiers viennent, disent, ne sortez pas de vos laboratoires, il y a un tireur fou. Moi, je suis là. J'écoute. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je dise à cette femme qui je suis? Là, j'étais incertaine encore. Mais effectivement, le Seigneur voulait que je me dévoile à Stéphanie.
Mais au moment où elle raconte ça, vous, qu'est-ce que vous...
Ah, ben là, j'arrête d'écouter. Je suis dans tous mes états émotionnels. Puis c'est vraiment... c'est juste la discussion. Quoi, Seigneur? Tu veux que je lui dise qui je suis? J'avais pas prévu ça.
Et moi-même, quand je me préparais pour cette conférence-là, moi, vous savez, j'ai toujours mes notes, tout ça. Et c'était pas prévu. Et moi, c'est la deuxième fois que j'enseigne. Donc, je sors de mes notes comme un élan. Mais tu vois, je me laisse guider. Donc, je sors des notes. Mais quand Monique vient me voir, mais je vois qu'elle pleure. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et finalement, elle continue l'histoire. Voilà.
Alors là, la conférence se termine. Et là, j'avais quand même une compagne avec moi qui est venue. Et je vais devant Stéphanie. Je lui dis, écoute, je suis la maman de Marc Lépine. Et assez étrange, c'est que moi, j'étais suivie à l'église par un pasteur. Et puis, quand je l'ai vu le lendemain, il m'a dit, « Qu'est-ce que tu as fait à Stéphanie? » J'ai dit, « J'ai rien fait. » Je lui ai dit qui j'étais. Mais Stéphanie, il m'a dit que pendant 4 jours, tu n'avais pas dormi.
Moi, j'ai réagi dans ce sens que... merci, Seigneur, parce que j'ai parlé des faits, mais de l'événement, je me disais, est-ce que je l'ai blessé? Est-ce que j'ai été maladroite? Tu sais, je me mets dans sa peau, je me dis, c'est son fils, c'est un événement. main, et dans l'église, puis moi, je déballe ça comme ça, tu vois. Mm-hmm. Et je te dis, j'ai pas dormi. Moi, je me suis dit, j'arrête le ministère. J'étais sûre, j'avais fait la plus grande erreur de communication de ma vie. Mm-hmm, ouais. Mais honnêtement, c'était merci Seigneur que l'église est confidentielle. Ouais. Et je me dis, c'est bien qu'elle était protégée, puis que personne m'avait averti qu'elle allait venir à la classe. Mm-hmm. Donc, c'est, mm-hmm. je pense que c'est, et je sais que c'est vraiment Dieu qui l'a permis. Ouais, mais ça m'a pris quelques jours à m'en remettre. Ouais. Mais après, c'est ce que ça a permis, c'est d'enlever le voile, ce qui fait qu'on a plus, on a pu entrer en contact, en relation.
Oui, comment après vous êtes revenu en contact
alors
après
moi,
tout ça?
Moi, j'étais à ma retraite. J'étais au début de ma retraite. J'avais beaucoup de temps. J'allais servir à Action Nouvelle Vie.
À la Banque alimentaire.
À la Banque alimentaire, parce que là, je me disais, je peux servir sans que les gens sachent qui je suis. Tu vois, personne, c'est pas écrit sur ton nom que tu es la mère de Marc Lépine. Mais là, à partir de ce moment-là, moi, j'avais prié le Seigneur. À un moment donné, attends, puis là, on est en quelle année? Là, on est en deux... Mais ouais, il y a eu un autre événement avant.
Mm-hmm.
Parce que ça, je suis un peu mêlée. Dans
c'est
ma... ouais, 2002.
Il y a eu une conférence.
Ouais, il y a eu... Juste avant ça, c'est que j'avais eu une autre visitation du Seigneur en 2001. Après Dawson, c'est ça. Parce qu'il y a eu Dawson, c'est et Dawson a réveillé toutes mes émotions. Et puis, en septembre 2001, après ce Dawson, là, je suis arrivée à l'église et puis là, j'étais en miettes. Là, en miettes. Et là, j'ai eu cette visitation de Jésus alors que je ne pouvais plus rien faire par moi-même. Et le Seigneur, ce qu'il m'a demandé, c'est étrange comme question, il dit « Qui fait battre ton cœur? » Puis dans le fond, c'est vrai, on ne se réveille pas le matin en disant oh, « Tiens, aujourd'hui, mon cœur bat, là, on le prend pour acquis. » Mais là, le Seigneur voulait que je prenne conscience que si j'étais là jour après jour, c'est parce que lui voulait que je sois là. Donc, c'est lui qui fait battre notre cœur. Mais j'ai dit d'accord, parce que là, j'avais deux chemins, la mort, la vie. Je pouvais mourir parce que j'étais vraiment en train de mourir de chagrin. Et là, j'ai dit d'accord, je vais choisir la vie, mais pour aider des femmes qui, comme moi, souffrent en silence. Donc ça, ça a précédé aussi. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est certain que le Seigneur agissait dans mon cœur. C'est lui qui m'a amené à cette conférence. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, tiens, j'ai transféré de la banque alimentaire pour aller à l'église. Je me rappelle, je pense que je faisais trois jours avec
moi. Ah, c'est mon assistant. Monique a été mon assistant. J'ai travaillé.
On a travaillé au moins 7 ans ensemble.
Incroyable. Parce que ce qu'elle saute les étapes, c'est qu'on a vu Dieu la restaurer vraiment.
Oui.
Pendant tous ces moments-là, tu sais, c'était un long... c'est normal. Ouais. Et moi, je la voyais prendre les outils, prendre les conseils, être suivie par l'équipe pastorale et marcher avec Dieu. Et là, on s'est dit, la restauration, elle devient une source de restauration. Et là, elle s'est jointe à l'équipe avec nous. Et vous pouvez vous imaginer comment elle a été une source d'encouragement pour les femmes. Elle rencontrait des femmes. On a sorti des femmes ensemble. On partait les deux dans des voitures, sortir des femmes qui étaient battues dans leur maison. Et on leur amenait l'espoir pour les emmener. On les emmenait dans des refuges pour femmes. Je vous épargne, mais on a fait beaucoup de femmes avec alcoolisme. Beaucoup. Et le témoignage... Bien sûr, moi, j'ai comme la théorie, mais la vie de Monique, son témoignage... était une source d'encouragement. Et c'est comme ça qu'on a débuté le ministère de la femme à Nouvelle-Vie.
Ah, c'est comme ça!
Ben oui! Monique était la première assistante.
Début,
oui, c'était ma... C'est comme ça qu'on a débuté. Ouais. Et la relation d'aide était fort chez nous.
Oui, moi, j'ai un sens d'organisation.
Monique, elle va dévoiler nos secrets!
Vas-y, dis-nous tout, Monique!
Stéphanie, elle est...
moi, je suis un électron libre.
Ouais. Alors, je l'aidais dans ce sens-là, mais les cours aussi. Hein. On a fait beaucoup de cours de restauration.
On a enseigné les femmes sur tous les sujets.
Ça a été vraiment...
Elle prenait mes notes. Mais... D'ailleurs, je m'ennuie, Monique, reviens. Elle mettait à classer mes messages par ordre alphabétique. Tout était propre dans mon bureau. Je n'ai jamais été aussi ordonnée de ma vie.
Donc là, on voit qu'en quelques années, vous êtes une femme en train de littéralement mourir de chagrin.
Oui.
Ouais.
Et
vraiment, là, vraiment mourir de chagrin.
Mourir,
en ayant choisi la vie.
Ouais. Mais ça a changé dès ce moment-là.
Oui, faut que le drame, il faut qu'il serve à quelque chose.
T'sais. Dès la décision de vivre.
Et je reviens sur Dawson, tu me corriges, Manu, puis je ne veux pas te couper. Mais Dawson a été... Dawson, pour ceux qui écoutent l'émission, c'est une deuxième tuerie qui est arrivée à Montréal. Mm-hmm. Et c'est sûr que Monique Cheminée allait super bien, elle travaillait. Mais quand cet événement est arrivé et était médiatisé, ça l'a éveillé en elle... Le drame passé, ce qui est tout à fait
j'imagine
normal.
J'imagine qu'on devait beaucoup en reparler.
Tout ça, il ressortait.
On en a toujours parlé, parce que c'était la journée que le gouvernement a décidé que c'était la journée contre la violence faite aux femmes.
Donc, Polytechnique.
C'est à vie, ça. Ouais. Tu vois?
Donc, à partir de Dawson, il y a eu Monique qui aide les femmes de l'Église autour d'elle, mais il y a eu Monique, moi, où j'ai vu, où elle a fait une sortie médiatique. Mm-hmm. Ouais. Et pendant longtemps, les journalistes qui étaient, il y avait Harold Gagné, le journaliste qui était super gentil, qui voulait que Monique donne son histoire. Mais Monique, elle, je pense que tu n'étais pas rendue.
J'étais pas prête.
Et quand Dawson est arrivé, et c'est là que moi, ça me touche parce que, tu sais, quand tu es brisée, elle aurait pu dire moi, j'ai donné, j'ai souffert, pourquoi aller m'exposer? Mais. Puis tu me corrigeras, mais ce qui est resté dans mon esprit, c'était tu pensais à la mère du tueur de Dawson. Mmh. Puis elle dit, cette femme-là, elle doit vivre ce que moi, j'ai vécu. Mmh. Être isolée, être jugée. Puis elle dit, je veux aller l'aider. Et c'est, mmh. ça a été sa motivation. Et le soir de Dawson, qu'on a ça, j'ai vu Monique dans le bureau, je l'ai laissée. Puis je dis, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Maman dit, non, je veux être seule. Puis elle est restée dans le bureau à prier. Et le lendemain, je t'ai amené deux cafés, tu sais, genre de journée qu'on allait. Puis là, je gagne, puis tu sais, habillée tout en mou, en jeans, tout. Tu sais, moi, je me disais, on va prendre une journée cocooning, Monique. Moi, j'arrive avec mes cafés, je cogne à la porte du bureau, elle rouvre la porte, puis elle me dit, c'est aujourd'hui que je témoigne, on s'en va à TVA. On appelle Harold Gagné, et elle s'est rendue à. On était, tu sais, genre. Journée, OK, Monique, on y va, là. T'sais, mais moi, j'étais pas. Oh, puis, tu sais, moi, je faisais, oui, oui, on y va, Monique, oui. Mais je me disais, ah, on y va, c'est là. Et finalement, elle a eu un entretien sur la télé nationale avec justement Harold Gagné. Et quand on est rentré à TVA, tu sentais le regard sur elle, comme si les préjugés, que si ton fils a fait des choses, ben, par le fait même, c'est une femme dysfonctionnelle, par le fait même, c'est une. Et pas du tout. Monique était une femme qui a aimé ses enfants,
vous
qui est cultivée.
Ce regard-là,
oh, oui, oui. C'est très. Jusqu'au jour, tu avais même Pierre Bruno, des journalistes très connus qui étaient là. Et quand elle a pris la parole, tu n'entendais rien sur le plateau. Mm-hmm. Et là, les gens regardaient et disaient, oh, wow! C'est... Et toute ma vie, je vais m'en souvenir, j'étais derrière avec mes cafés, puis elle a dit, j'aimerais demander pardon. Mm. Pas parce que moi, j'ai fait quelque chose, mais au nom de mon fils, à toutes les parents et les victimes que mon fils a fait. Mm-hmm. Et tu as senti comme... une compassion. Les gens ont comme vu un autre visage d'un drame qui... Monique, c'est un dommage collatéral parce qu'elle était jugée comme son fils. C'est traité presque comme une criminelle. Qu'est-ce que vous avez fait? Déjà, tu te poses les questions comme mère, mais la société lui mettait. Et en plus de ça, elle a voulu rencontrer des parents, des victimes, des filles qui ont été tuées. Et certains, hein, elle a demandé les rencontrer.
Avant qu'on puisse parler peut-être de ça, parce que c'est très intéressant. Mais quand... Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, cette nuit-là, il y a eu un basculement en pensant à la maman,
parce
à la
que
maman du tueur?
Dans le deuil, tu as différentes étapes. Tu sais, tu passes du choc, après du déni, après tu veux faire tout le ménage de tes émotions. Ça, j'avais tout fait ça. Mais arrive un moment donné où tu dois retrouver un sens à ta vie. Mm-hmm. Et Dawson, ça a été ça pour moi. C'est sûr que j'ai toujours prié le Seigneur parce que je veux suivre son timing à lui. Parce que c'est certain que je n'aurais pas été à la télévision avant ça, je n'étais pas prête. Mais ce matin-là, ce journaliste-là, ça faisait 2 ans qu'il courait après moi pour une entrevue. Puis quand il m'a envoyé ce courriel-là, j'avais prié la veille après Dawson. Et puis j'avais demandé, Seigneur, qu'il me donne un sens à ma vie. Mm-hmm. Et voilà que le lendemain... j'avais cette conviction de l'esprit. Mmh. Ça a été ma deuxième moment fort. Conviction là, que je ne pouvais pas échapper à ça. C'est pour ça que j'étais décidée. Puis je savais que si j'allais à l'église, puis je disais ben, téléphoner à TVA, que je serais à la télévision la journée même. Et c'est ce qui est arrivé. Mmh. Puis Stéphanie est venue avec moi.
Et sur le plateau, c'était quoi l'atmosphère?
Ben, j'étais juste avec le journaliste. J'avais l'impression de discuter avec lui, c'est tout. J'ai pas regardé... Oui, j'étais très à l'aise. Ça a été intitulé « Après 17 ans de silence ». Non, j'avais l'impression de parler avec quelqu'un, c'est tout.
Il était très bienveillant.
C'était un journaliste que je connaissais.
Derrière les caméras.
Alors, je ne sais pas, moi, j'ai juste répondu à ses questions. Et puis, ça a été la première entrevue. Mais c'est celle qui a été déterminante pour ma vie publique. C'est là où j'ai commencé ma vie publique. Donc, après ça, c'est que tout le monde venait me chercher pour des émissions, pour donner mon témoignage. Je l'ai donné en français, en anglais, dans tout ce que tu veux. Je l'ai donné dans tous les endroits. Et puis, ça dure depuis 22 ans, ça dure. Mm-hmm. Dans tous les pays du monde. Je sais pas, j'ai jamais...
En Asie, même.
J'ai été en Asie, aux Philippines, au Japon.
À un moment donné, je vous avais entendu dire, maintenant, j'en ai assez de raconter cette partie.
Je dis ça souvent, mais c'est un peu comme les trois conclusions de Pasteur Claude. Non? Je dis souvent ça, et puis tu vois, je recommence toujours. Pourquoi? Parce que le Seigneur, bien évidemment, quand tu viens auprès du Seigneur puis qu'il te redemande encore de faire quelque chose, ben tu dis oui, je vais le faire pour ta gloire.
C'est tellement un témoignage puissant de guérison.
Mais moi, quand je dis ça, c'est parce que c'est mon côté humain. J'ai l'impression que tout le monde en a assez de m'entendre. Parce que j'ai l'impression que tout le monde connaît ma vie, connaît mon témoignage. Ça fait 22 ans, je me répète, si on dit que les personnes âgées sont redondantes, là, je dis, oh là là, je me répète constamment. Mais non, c'est le Seigneur le veut, puis tu vois ce que je réalise aujourd'hui, parce que je continue encore de parler. J'ai fait 12 prisons, avec la justice réparatrice.
Oui, c'est ça.
Ouais, avec la justice réparatrice et avec la visitation de meurtriers.
Raconte un peu les meurtriers, qu'est-ce que tu leur disais?
Bien, le meurtrier m'appelait la dame de cœur, tu sais, déjà. Il avait un petit penchant, là. Mais disons, le meurtrier avec lequel j'étais jumelée la première fois dans la justice réparatrice, c'est sur 10 semaines. Mm-hmm. Et puis, tu as trois personnes qui ont subi des traumatismes ou comme un voleur, quelqu'un qui a été volé. On est jumelé avec un meurtrier ou avec un voleur ou avec quelqu'un qui ont fait quelque chose de semblable. Donc, moi, j'étais jumelé avec un meurtrier. Et là, tu dois donner ton témoignage. Et puis, tu as quelqu'un qui est là pour la société et qui vient faire un modérateur. Puis, le but, c'est que les meurtriers sachent qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens à l'extérieur, mais nous aussi pour comprendre qu'est-ce qui a pu les amener là. De toute façon, ce qui est arrivé, c'est que mon fils, quand il a eu, comme je vous ai dit, 14 ans, ne voulait plus que je le touche. Pour lui, là, c'était pas bien que sa mère le traite comme un petit garçon. Il voulait avoir son indépendance. Donc, il m'empêchait de le prendre dans mes bras. C'était difficile pour moi. Et puis, voilà que ce meurtrier-là, il n'arrêtait pas, le temps que je disais mon témoignage, il me flattait le dos, il n'arrêtait pas de me toucher, tu vois. Non, sans blague. Et puis moi, ben c'était différent, là. Fait que j'ai accepté quand même. Et puis, ça me rappelait que quelqu'un venait me consoler. C'est comme si mon fils, quand il était tout petit, venait me consoler, venait me toucher. C'est comme un transfert, si tu veux, de personnage, là, mais qui est bon, tu sais. Et puis pour lui, il ne voulait pas m'entendre au début parce qu'il n'avait jamais fait la paix avec ses parents. Je n'avais jamais demandé pardon à ses parents pour les crimes qu'il avait commis. Et puis ce qu'il savait pour lui, c'est qu'une semaine après, il a demandé pardon à ses parents. Mmh. Alors, ça a été comme un rapprochement, si tu veux, voulu. Évidemment, par Dieu, premièrement, mais voulu aussi. Et puis, disons que pour moi, ça a été comme satisfaisant parce qu'il est venu m'apporter la chaleur humaine. Mm-hmm. Comme quoi, même si mon fils avait fait des choses terribles, moi, je l'aime toujours, mon fils. Je me dis toujours, je ne le définis pas par la dernière heure de sa vie. Mm-hmm. Je le vois dans tout l'ensemble de sa vie. Je vois ses souffrances. Je vois ce qui peut-être l'a amené là. Je ne sais pas, là, mais on a quand même des hypothèses. Hein? Mm-hmm. Donc, pour moi, ça a été merveilleux. Fait que le meurtrier, moi, je dis, ben, il faut que tu sois toi-même. Moi, je suis une mère aimante. Quand je vais voir des jeunes délinquants, quand je vais voir n'importe qui, je les vois comme des enfants qui souffrent, tu vois. Mm-hmm. Qui n'ont peut-être pas eu toutes les chances, ouais, qui n'ont pas eu toutes les chances dans leur vie. Je me rappelle une jeune délinquante qui me demande à la dernière minute, elle dit, est-ce que vous aimez encore vos enfants, tu vois? Puis elle est toute jeune. Fait que je voyais, il faut décoder. J'ai dit, elle vient voir si sa mère, son père l'aime encore, malgré le fait qu'elle a fait des choses répréhensibles. Mais vous savez, quand tu regardes Jésus, Jésus n'a jamais repris le comportement de quelqu'un. À la femme adultère ou n'importe qui d'autre, il n'a jamais dit, tu es une personne terrible. Il ne regarde pas au comportement. Jésus regarde à ton cœur. Puis il y a juste lui qui peut voir ce qui se passe dans ton cœur. Puis pourquoi tu en es arrivé là? Mm-hmm. Donc, tous ceux qui se disent comment mon fils a pu en arriver là, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans sa tête. Je n'étais pas dans sa tête. Je ne sais pas toutes les blessures, les traumas qu'il a vécu lui-même parce qu'il était secret, donc il n'en parlait pas. Mais ça a certainement influencé ce coup-là. Parce que, tu sais, quand tu gardes ta colère puis qu'elle refoule à l'intérieur de toi, tôt ou tard, ça va sortir, mais ça sort pas toujours bien. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que mon fils avait beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, peut-être à cause de son vécu, à cause des rejets qu'il a eu, à cause de l'abandon, parce qu'il a dû ressentir toutes ces choses-là. Puis c'est ça que Jésus m'a montré à Gethsémani. Mm-hmm. On a tous de l'abandon, on a tous du rejet. C'est ça qu'il a vécu pour nous, tu vois. Mm. Et puis quand tu vois que comment il t'a aimé à ce point de mourir pour toi, parce qu'il avait connu ces choses-là, puis il connaissait ce que tu vivais à l'intérieur de toi, c'est ça, moi, qui me passionne, tu vois, dans la vie de Jésus. C'est lui que je veux. C'est pas juste connaître sur lui. Je veux vraiment connaître qui il est lui-même, tu vois. Et puis, c'est ce qui me passionne aussi à étudier encore aujourd'hui. J'étudie. Oh, je veux, tu vois.
On a écrit un livre aussi, un deuxième avec Harold.
Ouais, on a deux livres.
Ah ouais.
Hein. Le premier livre, c'est Vivre, parce que je ne voulais pas survivre. Jésus a promis dans Jean 10 qu'on aurait une vie en abondance. Mm-hmm. Des fleuves d'eau vive couleraient en nous. Donc, ce livre-là, on l'a intitulé Vivre, mais il était écrit par une librairie qui était non chrétienne. Mm-hmm. Mais ça parle plus de Polytechnique, des acteurs, les gens qui gravitaient autour de moi, puis de l'événement comme tel. Mais 30 ans après, le Seigneur m'a amené à m'isoler pendant 4 ans pour écrire un deuxième livre. Celui-ci, je l'ai appelé Renaître. Renaître en 2019, 30 ans, pour laisser un héritage plus positif que ce que mon fils avait laissé à la société québécoise. Moi, je voulais que la société québécoise vive son deuil, parce qu'il y a des stigmatisations sociales qui sont là, mais on n'a pas à rester dans cette stigmatisation toute notre vie. Le Seigneur m'a fait comprendre ça très tôt, que finalement, oui, il y a eu des choses répréhensibles qui ont été faites par mon mari. Moi, à un moment donné, je me sentais coupable, mais il m'a montré que je n'avais pas toute la responsabilité, toute la culpabilité ne m'était pas nécessairement assignée. J'avais peut-être des torts, mais je n'avais pas tous les torts. Puis moi, j'étais différente de mon fils. Quand tes enfants arrivent à l'âge adulte, c'est eux qui vont passer devant le Seigneur s'ils meurent. C'est pas moi qui vais rendre compte pour mes enfants quand ils sont adultes. Donc là, j'ai compris que moi, j'avais ma personnalité propre. Mes enfants ont vécu des choses. J'ai donné le meilleur que j'ai pu avec ce que je connaissais à l'époque pour les élever, pour les amener à une certaine compréhension. Mais eux avaient leurs responsabilités, parce qu'on a tous un libre arbitre. Donc, leurs choix, les choix qu'ils ont faits, c'était leurs choix, c'était pas les miens. J'ai pas choisi d'avoir un fils meurtrier. J'ai pas choisi d'avoir une fille qui s'est enlevée la vie par overdose. Ça, c'était pas mes valeurs à moi. Donc, s'ils ont pris ce chemin-là à cause de leur propre vécu, ben le Seigneur connaît toute leur vie. Il connaît leurs blessures, comme il connaît pourquoi ils ont fait ça, je sais pas. Mais moi, j'avais une autre personnalité. Moi, j'étais au Seigneur. J'appartenais au Seigneur quand même depuis 10 ans quand c'est arrivé, ça. Et puis moi, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il me consolait pour que je puisse consoler d'autres.
Et une chose que toi, tu m'as dit quand je t'ai vue, parce que quand je regarde, j'accompagnais Monique, le pourquoi. Ouais. Monique, je pense qu'en même période, c'est pourquoi je vis tel événement. Ouais, ouais. Ça, c'est pas obligé d'être un drame comme Monique elle a vécu, mais comme mère, comme femme, que ce soit célibataire, mariée, mère, des fois, on vit une tragédie, on dit pourquoi je vis ça, pourquoi je vis ça. Et Monique m'a appris que le pourquoi, c'est une perte de temps.
Ouais.
Parce qu'il y a des choses qu'on n'aura jamais. Elle n'aura jamais la réponse sur cette terre. Elle l'aura au ciel. Et peut-être, du témoignage de Monique, moi, je l'ai appliqué dans ma vie. Quand tu vis des choses difficiles, j'essaie de ne pas me dire pourquoi. Pourquoi si, mais Seigneur, que je puisse être que utilise ça pour que je sois une source de consolation et pas perdre notre énergie à comprendre des choses qu'on n'a pas la réponse. La Bible dit qu'on comprend partiellement certaines choses aussi. Donc ça m'a inspiré beaucoup.
Ouais, puis le pourquoi, moi, je l'ai quand même vécu à un moment donné, mais le Seigneur m'a fait comprendre que si les humains veulent se justifier, ils veulent un coupable. Puis dans le fond, on ne sait pas, hein? Moi, je ne sais pas pourquoi mon fils a fait ces choses-là. Job ne savait certainement pas pourquoi il souffrait non plus. Hein? Puis dans le fond, Dieu n'a jamais dit à Job pourquoi il avait souffert. Donc, c'est une question inutile. Par contre, moment donné...
Ceci dit, Daria Landy nous a dit, c'était par bon sens, je ne pose pas ce genre de questions.
Oui, c'est vrai. Mais par contre...
Bonnie le dit un peu plus.
Ben, je suis un peu direct, c'est vrai. Un peu. Un peu moins qu'avant. Mais à un moment donné, c'est qu'il faut que tu changes ta question. Et le Seigneur m'a fait changer ma question par qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce qui me reste et comment je vais le faire? Et à partir de là, tu prends des actions concrètes, mais très simples. Moi, la première chose que j'ai faite pour changer, c'est un travailleur social qui m'avait aidé dans ça, puis il dit, qu'est-ce que tu aimais faire avec tes enfants? Ben, j'ai dit, moi, j'aimais jouer au Scrabble, parce que j'aime les jeux de mots. Et j'aimais ça quand ils venaient manger le soir, le samedi soir, puis on jouait au Scrabble, puis on avait du bon temps. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Alors, j'étais allée m'inscrire à un club de
Elle
Scrabble.
Elle est redoutable au Scrabble. Parlez-en à mon fils Jérémy.
Duplicap. J'ai fait ça pendant 6 ans. Là, hein.
OK.
Et puis, par la suite, j'étais tellement nerveuse le premier soir que ma voiture, mon moteur roulait encore. Puis j'avais laissé mes clés à l'intérieur. Puis c'était sous clé. Il a fallu que je demande à un inconnu de m'amener chez moi, traverser le pont pour aller chercher mon double de clés. C'était comme ça, là, tu sais. Mais j'ai fait ça. Mais sais-tu quoi? Personne ne me connaissait à l'époque. Mais moi, je savais que je faisais ma thérapie. Et puis, j'ai joué au Scrabble. Et puis vraiment, j'aimais ça. Mais à un moment donné, j'ai changé. Maintenant, je joue avec l'ordinateur. C'est bon. Ça me prend ma petite partie tous les jours.
Je suis sûre qu'elle gagne à part sur l'ordinateur.
Des fois. Pas toujours. Mais en tout cas, c'est ça. En fait, c'est des gestes concrets. Comme une autre fois, je me rappelle 3 mois après, quand je suis revenue chez moi, j'avais peur la nuit. J'avais des angoisses. J'avais l'impression que mon fils venait me rentrer un couteau dans le cœur. Parce que je vis seule. Hein? Et puis, j'avais ma lumière allumée. Puis le Seigneur me demande, est-ce que tu penses que ta lumière allumée change quelque chose à la situation? Tu vois, dans le fond, on est irrationnel hein, quand on a peur. Alors, il me dit, ferme ta lumière, je vais t'endormir. Simple comme ça. Des choses très, très simples. J'ai éteint ma lumière. Mais la chose, par contre, c'est qu'il faut obéir à Dieu. S'il te demande quelque chose, tu dois obéir. Tu vois? Aussi simple que ce soit, j'ai éteint la lumière. Et après ça, ben, je me suis endormie dans ses bras. C'est vrai que j'ai bien dormi ce soir-là. Mais c'est des choses tellement simples, tellement simples. Mais il faut être à l'écoute. Puis une autre chose que j'ai apprise aussi, vivre un jour à la fois. Parce que la grâce, les gens disent, comment tu fais pour vivre? Mais tu ne peux pas le savoir, tu n'as pas la grâce d'État. Tu n'as pas la grâce que le Seigneur donne à celui qui souffre. C'est chaque matin que ça vient. On se réveille. Ouais, mon cœur bat aujourd'hui. Dieu veut que je vive. Alors là, tu es là. Et quelle que soit la chose qui arrive, les gens avec qui tu rencontres, ben, tu le fais pour la gloire de Dieu. Alors, à ce moment-là, c'est toujours beau. Fait que tu trouves ton contentement dans ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore une décision à prendre pour vous tous les jours?
Chaque matin. Chaque matin, parce que moi, des fois, le matin, je me lève, puis je voudrais donc rester couché. Je voudrais donc partir, tu sais. J'aimerais ça, des fois, m'en aller, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de vivre, hein? Mm-hmm. Écoute, à 86 ans, là, t'as...
Elle l'a dit. Mais elle l'assume, elle est... Elle...
Oh, je l'assume, mais des fois, t'as des petites douleurs, puis des... oh, tu te dis, oh non, j'aimerais ça rester assis, là, puis m'en aller, tu sais. Mais c'est pas ça. T'sais, le Seigneur te redonne, parce que il y a un verset que je me dis toujours tous les matins, c'est que dans Ésaïe 40, hein, le Seigneur renouvelle nos forces. Mmh. Ah bon, il renouvelle mes forces. Mais des fois, ça prend une heure ou deux avant que je me lève. Mais une fois que je suis partie, ça va, ça va. Mais une autre chose, je ne mets jamais plus qu'une chose par jour à faire. Mmh. Parce que je respecte mon rythme. J'aime pas le matin, moi. Le matin, j'aime ça prendre mon temps.
Est-ce fait que je le comprends, moi?
Ouais, hein? Alors, pourquoi changer nos habitudes? Le Seigneur m'aime autant, hein? Même si je lis à midi que si je lis à 7 heures. Hein? Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, j'aime ça et puis je prends mon temps.
Il y a plein de choses à dire encore.
Par jour?
Ouais, une obligation par jour, pas davantage.
Mais tous les jours, vous faites quelque chose.
Ouais. Ah ouais, ben, ah oui, ça serait-ce que ma marche.
La marche, la coiffe, la piscine, ouais, le témoin. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais.
Venir, elle témoigne encore. Elle
venir ici aujourd'hui.
Comme conférencière, on peut l'inviter partout. Elle te donne
ouais, j'ai encore dimanche dernier.
Quand on dit partout, c'est littéralement partout.
Oui, parce qu'elle arrive de
voyager.
Ouais, ouais, je voyage. Moi, j'aime les voyages. Ouais. Le Seigneur te prend avec ta personnalité, hein, avec tes goûts
mais
aussi.
Avouez que des fois, on peut vivre les pires drames. Regarde, c'est être rayonnante, aimer la vie, puis il y a toujours de l'espoir avec toi. Mm-hmm. Ouais. Des fois, on pense que c'est terminé, mais il y a toujours de l'espoir.
En tout cas, une chose est malheureusement terminée, c'est notre émission d'aujourd'hui. C'est passé tellement vite. Merci, Monique. Merci d'être venue partager. Et nous, on ne se lasse pas d'entendre votre histoire. C'est vrai que il y a une partie de l'histoire qui est la même, mais pour l'avoir entendue de votre bouche déjà et d'avoir entendu aujourd'hui une partie de votre nouvelle histoire, c'est frais à chaque fois. Parce qu'on voit que c'est pas un disque où on réécoute la même chose. Parce que vous-même, en fait, vous changez au fur et à mesure du temps, vous vous bonifiez. Et je trouve ça hyper rafraîchissant. Et rafraîchissant, on veut bien vieillir quand même comme vous, avec un amour aussi frais aussi pour le Seigneur. Une soif encore d'apprendre et de grandir et puis être prêt à se soumettre, à obéir au Seigneur.
Avec des enfants spirituels.
Une maman spirituelle.
Ouais. En tout cas, vous êtes belles
toutes les deux.
Une grand-maman
pour ces
Eh bien, merci beaucoup, Monique, d'avoir c'est été bien. Avec nous. Et puis, on se refait ça.
On d'accord, se refait d'accord. Ça le matin. Pas le matin, ça marche. Ça va arranger Aurélie.
Donc, on va se retrouver vendredi. Oui. Vendredi, on a encore une belle
un
histoire.
Témoignage.
Ouais, un beau témoignage. Donc, merci les filles d'avoir été avec nous. Merci Monique. Bye-bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.